Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus. J'ai bien compris ce matin que la personne la plus importante parmi nous était notre frère, à tous. Et ça tombe bien, parce que je vais vous parler de Jésus, Fils de Dieu. Et pour ça, nous allons aller dans l'Épître aux Colossiens. Alors, pardon, j'ai oublié la clé, hein. Pas m'en vouloir. J'avais prévu de projeter le texte. C'est de la faute à Philippe. Bon, voilà. Non, c'est à moi, j'ai une petite tête. Et j'ai oublié. Mais ça fait rien parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes. L'Épître aux Colossiens est la plus profonde des lettres de l'apôtre Paul. Aucune épître ne nous conduit sur les plus hauts sommets. C'est par excellence l'épître des saints et des fidèles. On l'appelle une épître christologique, c'est une épître de Christ. Et véritablement, ces quelques chapitres, c'est pas une grande épître. Petite lettre de quelques pages renferme des formules immortelles qui, depuis 20 siècles, sont la nourriture des croyants. La personne de Christ est le grand sujet de cette épître. Tandis que l'Épître aux Éphésiens insiste sur les caractères de l'Église, la lettre aux Colossiens met en lumière, comme aucune autre, le rôle de la personne de Christ. Dans moins de 95 versets, vous voyez, c'est pas beaucoup, Christ revient 56 fois. D'où l'importance de Christ, celui qui devait venir loin, hein, qu'on attendait, eh bien, il est présent dans le cœur et la pensée de l'apôtre. Donc c'est une épître qui a été faite bien sûr par Paul, comme il doit l'être dans la vie du chrétien. Paul, justement, l'ancien, le pasteur, l'apôtre, c'est une réserve d'amour ce Paul. C'est un réservoir de tendresse, une source de bénédiction pour ses frères, et il est juste le prolongement de Jésus-Christ. Par la foi, nous en avons parlé, nous sommes projetés dans l'infini, parce que nous croyons. Dieu, dans sa souveraineté, règne. Et c'est avec ravissement que les anges contemplent la gloire divine et dans une pluie d'étoiles, la douceur et la toute-puissance reposent sur la justice divine. Je ne sais pas vous, j'aime bien rêver. Je rêve parce que je ne connais pas l'infini. Je ne connais pas la sainteté, la perfection. Mais qu'est-ce que j'aimerais être dedans? Qu'est-ce que j'aimerais être constamment baigné dans cet amour que seul Dieu sait nous donner et d'être dans cette présence de Jésus qui, lui, incarne parfaitement Dieu. Et je reprends après ce tableau. Jean, l'apôtre, va essayer de dire ce qu'il voit avec les mots qu'il connaît. Alors vous allez me dire, Jean, c'est pas un Colossien, vous avez raison. Et c'est l'extraordinaire. Écoutez, venez avec moi dans la Bible, en Apocalypse 1, les versets 9 à 18. Si l'on parle de Jésus, il faut écouter ce que Jean dit. Jean, vous savez, c'était le disciple que Jésus aimait le plus, sans doute peut-être le plus jeune à l'époque. Et Jean a vécu dans cette intimité de Jésus. Il le connaissait bien, il respirait son air, il vivait constamment, on va dire, les pensées qu'il partageait. Et il va justement en être tellement imprégné que ici, dans le chapitre 1, donc les versets 9, « Moi, Jean, dit-il, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. » À cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il faut dire que Jean avait été balancé sur cette île pour être oublié. Jean est vieux à ce moment-là. Hein, il est à la fin de sa vie. Et il dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entends derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée, des églises qui étaient importantes à l'époque, hein, qui marchaient bien. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blonds comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Passage extraordinaire, que je ne commenterai pas, mais quand je pense à Jésus, pardonnez-moi, je pense à ce passage. Il m'arrive de penser aussi aux cosmonautes qui se sont retrouvés dans l'espace et qui ont été éblouis pour la première fois par la planète bleue et par l'immensité de l'univers. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien comparé à la personne de Dieu. Où rien n'est statique. Le mouvement s'exprime par l'amour. Au cœur de la déité, les 3 personnes divines rayonnent pour former justement cette trinité. Colossiens nous parle d'une personne de la trinité. Jésus, la divinité de Jésus-Christ. Et nous allons lire dans Colossiens 1, les versets 15 à 19. Écoutez d'abord ce verset. Aucune épître ne rend un hommage plus complet à la divinité de Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste à lui. Père éternel, c'est tellement difficile de parler de vos 3 personnes. Comment pourrait-on, nous, essayer d'expliquer la déité ? Qu'est-ce que c'est ? La Trinité. 3 personnes en un seul Dieu. Seigneur, nous crions à toi ce matin, parce que nous appelons le Saint-Esprit sur nous. Nous demandons à ce que, justement, il nous ouvre les yeux du cœur, comme disait Paul. Ouvre-nous l'intelligence de notre cœur, afin que nous puissions justement comprendre toute chose sur la personne de Jésus. Il est la personne la plus importante qui, justement, a été. Seigneur, il est venu parmi nous, oublions sa forme de Dieu, laissant tomber derrière lui tout ce qu'il avait auprès de, justement, la Trinité, pour prendre une forme d'homme, c'est-à-dire une forme comme nous, devenir comme nous, un homme, et ainsi se limiter sur cette terre à marcher comme un homme. Mais Seigneur, il avait une mission particulière. Et aujourd'hui, si nous existons, si nous sommes là dans cette église, c'est parce qu'il a tout accompli, comme il a été dit plusieurs fois, je ne vais pas répéter, mais parce que ça a été fait une fois pour toutes, que ça a été accepté parce que c'était acceptable. Il était le seul saint à pouvoir justement s'offrir pour nous pécheurs. Merci Seigneur de cette réalité. On n'aura jamais de cesse de se répéter ces vérités. Guide-nous dans ta parole justement à le voir tel qu'il est en réalité. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Donc, Colossiens 1, les versets 15 à 23. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, nous, qui étions autrefois étrangers et ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, il nous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. J'ai mis « nous », ce n'est pas dans le texte, parce que j'aime bien m'identifier avec vous comme étant un pécheur pareil, pardonné, pour nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Si du moins nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'Évangile que nous avons entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, dit-il, j'ai été fait ministre. Ça fait du bien de se laisser aller dans la grâce, n'est-ce pas ? Dieu est bon. Amen. À l'origine, pour simplement rappeler, Colossiens est la lettre écrite par l'apôtre Paul après la visite d'Épaphras, évangéliste de l'église de Colosse. Épaphras dit à Paul que les Colossiens tombaient dans une grave erreur. Et déjà à l'époque, ça existait, les erreurs. Ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que les autres parce qu'ils observaient certaines mortifications et adoraient les anges. On trouve ça dans Colossiens 2, 16 ou 2, 18. Ces pratiques donnaient aux Colossiens le sentiment qu'ils se sanctifiaient. Ils avaient aussi l'impression de mieux comprendre les mystères de l'univers que les autres membres de l'Église. Donc dans sa lettre, Paul les reprend en enseignant que la rédemption n'est possible que par le Christ et que nous devons faire preuve de sagesse et le servir. C'est intéressant de voir que cette petite épître aux Colossiens, croyez-moi, elle est vraiment heureuse et bienvenue, mais qu'elle nous rappelle que déjà à cette époque-là, il y avait des erreurs. Il y avait des hérésies qui se propageaient et qu'il fallait justement affronter. C'est pourquoi commence par la divinité de Christ. Si le Père est la source de tout, le Fils de son amour est le canal dans lequel tout découle vers nous. Celui qui a tout mis à exécution malgré l'immense prix que cela lui a coûté. La rédemption, comme on a parlé, nous atteint par son sang. Et quand nous découvrons qui est celui qui a versé son sang, nos pensées sur ce sujet sont grandement élargies. C'est pourquoi, versets 15 à 17, il nous est donné un aperçu de sa splendeur en rapport avec la création. C'est un passage tant quant au caractère sublime des pensées exprimées qu'il est inégalé, qu'à la puissance active dans laquelle ces pensées sont exprimées aussi brièvement que possible. Il y a une combinaison de sublime, de puissance active et de concision. Deux termes du verset 15 exigent une remarque. La force du sens du mot « image », c'est, en fait, on pourrait traduire par « représentant ». Le Dieu invisible est représenté exactement en lui, chose impossible si lui-même n'était Dieu. Certains tentent à hésiter légèrement devant cette interprétation, à cause du second terme de ce verset exigeant une remarque. Le deuxième terme, c'est « premier-né ». Ils insistent trop dans leur pensée sur la seconde partie de ce terme « né ». Il est né, disent-ils. Mais le terme « de premier-né » a aussi un sens figuré à côté de son sens premier. On voit ça dans les psaumes 89, 27 ou Jérémie 31, 9. Il signifie « alors celui qui prend la place suprême » comme détenant les droits du premier-né. C'est le sens dans lequel ce terme est utilisé dans notre passage. Je répète, il signifie alors celui qui prend la place suprême comme détenant les droits de premier-né. Le Seigneur Jésus s'est avancé non seulement comme représentant de tout ce que Dieu est, mais comme celui ayant la prééminence sur toute la création. Toute la gloire et les droits de la création lui ont été dévolus. Pour la simple raison qu'il est le Créateur, comme le déclare le verset 16. Au tout premier verset de la Bible, la création est attribuée à Dieu. Et il est remarquable que le mot qui est utilisé pour désigner Dieu est au pluriel. Je vais passer un petit peu là-dessus. Nous découvrons aussi que parmi les trois personnes de la Trinité, la création est toujours attribuée au Fils. C'est le cas ici. Ce grand fait est affirmé de trois manières au verset 16, avec l'utilisation des trois prépositions différentes, dans, par et pour. Verset 16, on reprend. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est parlé des puissances spirituelles et invisibles, comme se trouvant sous quatre chefs ou têtes, nous ne savons pas ce que distingue réellement les trônes, les seigneuries, les principautés ou les autorités, mais nous savons qu'elles doivent toute leur existence au Seigneur Jésus. Deux fois dans ce verset, il est affirmé qu'il est le Créateur de toutes choses. En conséquence, il est avant, c'est une question de temps, et devant, qui est une question de position, toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui. Dans l'univers, les étoiles poursuivent leur course, mais elles ne le font que parce que lui les dirige. Il n'est pas difficile de voir le Créateur entrer au milieu de sa propre création en devenant homme. Il se tient forcément dans la création comme chef et premier-né. Mais au verset 18, nous trouvons qu'il est aussi chef et premier-né, mais sous un autre apport. Il est le chef ou la tête du corps de l'Assemblée, et l'Assemblée est l'œuvre de Dieu en création nouvelle. Il est le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire qu'il détient les droits suprêmes dans le monde de la résurrection. En conséquence, il a la première place en toutes choses et dans tous les domaines. Quelle glorieuse vérité que celle-ci! Quelle merveille de le connaître comme premier-né de ces deux manières, à la fois en relation avec la première création et avec la nouvelle création. En outre, il est le commencement. Il existait au commencement, comme cela nous est dit d'ailleurs, mais là c'est autre chose. Ici, il est le commencement, et ce commencement est en rapport avec la résurrection, comme le montre le reste du verset. La résurrection du Seigneur Jésus a été le nouveau commencement pour Dieu. Tout ce que Dieu fait aujourd'hui, il le fait en rapport avec Christ en résurrection. Tous nos liens avec lui sont sur ce pied-là. Considérons soigneusement ce point-là avec prière, car à moins de le saisir par l'intelligence spirituelle, nous n'arriverons pas à apprécier la vraie nature du christianisme. Et puis comme application, prenons les affirmations de l'Épître pour nous. Part à l'héritage des saints, chapitre 1, verset 12. La rédemption et la rémission des péchés, verset 14. La paix par le sang de la croix, verset 20. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, 1.12. Et il nous a transportés dans le royaume de son amour. Cette épître, voyez-vous, est vraiment fantastique, j'y reviendrai plusieurs fois. Car elle met un terme au bavardage, bien souvent. On rencontre des gens qui discutent sur les vérités bibliques, comme si nous étions aptes à donner des versions acceptables humainement pour notre compréhension. Et c'est de là que proviennent les problèmes. Pourquoi ne pas prendre la Bible au mot pour tout ce qui est écrit dans les versets 12-14, cette certitude « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Je suis désolé que ça ne soit pas projeté. C'est un texte extraordinaire. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons leur rédemption, c'est-à-dire le rachat, comme nous a dit tout à l'heure, le pardon des péchés. » C'est fait, c'est acquis, c'est pas négociable et c'est pas à discuter. À condition, comme le dit le verset 23, « Si du moins vous demeurez en lui. » C'est ce que veut dire ce verset. Il y a une autre possibilité, c'est de dire « accroché au Christ ». Accroché au Christ. Et Paul vous rappelait aux Colossiens que le plus important est là dans notre compréhension du Christ. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il est vraiment le Créateur. Il a vraiment vaincu les forces du mal à la croix. Il est vraiment ressuscité. C'est une réalité. Mes amis, avec Paul ce matin, j'affirme avec puissance que nous avons été déclarés saints, que Jésus nous a rachetés et que nous sommes pardonnés, et que Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. N'ayons pas peur de venir au pied de la croix pour demander pardon. Dieu n'accuse personne. Dieu, au contraire, a un regard bienveillant. On a parlé de l'amour de Dieu. Il se manifeste là, dans le fait qu'il ne se lasse pas de nous pardonner. Jésus nous a rachetés et que nous sommes pardonnés. Pardon, non, attends, je reviens en arrière. Mes amis, Paul, ce matin, j'affirme avec puissance que nous avons été déclarés saints et que Jésus nous a rachetés et que nous sommes pardonnés. Que nous avons la paix avec Dieu par le sang de la croix. Jésus nous a délivrés des puissances des ténèbres et il nous a transportés où ? Dans le royaume de son amour. Frères et sœurs, il y a une perception parfois qui peut nous échapper. C'est le fait que nous parlons du monde spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Et c'est dans cette vie spirituelle que nous avons avec Dieu, cette rencontre, que nous avons cette possibilité aussi d'être en paix. C'est pas dans le monde, c'est pas par mon intellectuel ou par mes pensées ou par ma façon de comprendre, de lire, de m'instruire, pas du tout. Pas du tout, c'est dans ma relation personnelle, à travers ce qu'il y a dans mon cœur, cet esprit que Dieu est venu mettre, son esprit, c'est ça qui me donne la vie et qui me permet aujourd'hui de trouver la paix avec mon Dieu. C'est par ma compréhension dans mon cœur que je suis et que je demeure un pécheur, mais un pécheur qui peut être pardonné, que je peux marcher avec Dieu et que vous pourriez partir ce matin en paix. Si vous aviez peut-être un souci, peut-être quelque chose de trop lourd qui vous empêche de marcher, peut-être que cette nuit ça vous a réveillé, eh bien sachez que vous avez la possibilité là, maintenant, de dire « Seigneur, j'y comprends rien, je ne sais pas comment faire ». Mais je peux faire une chose dans mon cœur, c'est te demander pardon. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta paix. Oh, j'aimerais tant qu'on m'aime comme ça. Ça me donne des... Ça me trouble profondément. Parce que là, le Saint-Esprit se réjouit d'une prière comme ça. Dieu, je dirais, est ému lui aussi lorsqu'un de ses enfants revient vers lui. Frères et sœurs, je vous invite... si vous avez besoin de Dieu, lui demandez son aide, parce que Dieu veut nous aider tous. Et c'est vrai, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Mes amis, il faut revenir à la simplicité de la Bible. Elle est la parole de Dieu. J'ai peut-être été un petit peu rapide dans mes explications, mais pour nous, ce qui est important, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. C'est parce qu'il était le Fils de Dieu qu'il a pu parfaitement venir payer le prix à notre place. Personne ne pouvait payer ce prix, parce que la seule personne qui était pure, parfaitement pure, sainte, sans défaut, et qui n'a jamais connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous justifier, pour nous permettre aujourd'hui d'être ses enfants. En lisant cette épître, je me rends compte combien l'apôtre, en peu de mots, établit des certitudes pour notre vie. Et je nous engage ce matin à réfléchir à cette vérité. Jésus-Christ, on ne le dira jamais assez, est vraiment le Fils de Dieu, personne de la Trinité, il est notre Maître et notre Seigneur, parce qu'il est le Créateur. Frères et sœurs, pour avoir la paix dans notre cœur, je nous engage à prononcer à l'intérieur de nous cette vérité. Il est mon Maître et mon Seigneur, celui qui dirige ma vie, qui dirige mon cœur, celui qui m'aime, celui qui a préparé de bonnes choses d'avance pour moi, afin que je puisse les pratiquer. Je ne sais pas savoir ce qu'il faut faire. Demandez-lui. Parce que lui, il les a déjà préparées d'avance. Ouvrons notre cœur à cette réalité. Et ce matin, au regard de ces certitudes, Eh bien, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ta vie? Est-ce que vraiment Jésus est le Seigneur de ta vie? Moi, je le veux, mais je m'aperçois que chaque matin, je dois prendre cette décision que Jésus règne en moi. Et le soir, je constate que j'ai détrôné le roi. J'ai bien souvent pris la place du roi. Je suis devenu le Seigneur de ma vie. Et j'ai péché contre Dieu. Bien souvent. C'est pourquoi nous sommes constitués encore, unis à Christ. Nous formons un seul corps. Nous puisons ensemble à la source. La force est en Christ. Seigneur, je te demande pardon. Pardon de mon arrogance, pardon de mon orgueil, de mon insuffisance, de ma liberté de vouloir faire ce que je veux, et même de te mettre de côté. Seigneur, pardon, parce que c'est vrai que je t'aime plus que toute autre chose, mais je m'aperçois que dans mes actes, dans mes faits, il y a une autre loi, celle de mon humanité. Et j'ai besoin de revenir vers toi constamment, parce que tu es le Christ, celui qui devait venir. Tu es Jésus, le Sauveur, celui qui nous a sauvés. Et il n'y a personne d'autre que toi où nous pourrions aller. Seigneur, c'est pourquoi on peut venir ce matin vers toi tranquillement et te dire pardonne-moi parce que j'ai péché. Mais merci Seigneur. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que en toi j'ai justement le salut, la certitude qu'un jour je serai dans ta présence. Que je profiterai de justement tout ce que nous lisons dans ce livre, mais qui est si bien dit, mais si mal présenté. Parce que, ma foi, on n'est pas dans l'infini, on n'est pas dans ton univers de sainteté, mais vivement qu'on y soit, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.